au plus près de la recherche sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Quand on est fragilisé par des troubles psychiques, ce n'est pas simple d'articuler suivi médical et vie active. Et si vous êtes bipolaire, schizophrène ou dépressif, on vous dit en général « soigne-toi d'abord et reviens bosser après ». Ou à l'inverse, on accepte que vous travaillez, mais seulement si vous faites comme si tout allait bien pour surtout ne pas imposer votre maladie à d'autres. Autant le dire tout de suite, c'est très très compliqué quand on est fragilisé par des troubles psychiques de s'insérer socialement et professionnellement. Et pourtant, pour ces personnes, comme pour tout le monde, s'insérer est un besoin vital. Alors on fait quoi? Eh bien par exemple, on étudie l'action du Clubhouse France. Et qu'est-ce qu'on réalise? Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec nos invités du jour dans Au plus près de la recherche, une émission réalisée, je vous le rappelle, en partenariat avec la FIRA et grâce au soutien de l'OCIRP. Avant de retrouver tout de suite nos invités, un message de la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap, pour vous dire que l'appel à projet 2018 est ouvert et que vous pouvez d'ores et déjà vous renseigner sur le site fira.org pour participer soit à l'appel à projet général, soit dans une des catégories suivantes cette année, handicap et accès aux soins, handicap et grande précarité, handicap et milieu rural, handicap et vieillissement. Voilà, vous avez jusqu'au 23 mars si vous souhaitez tenter d'être sélectionné. Et puis après, vous aurez jusqu'au 28 septembre pour finaliser un dossier dans le cas où vous êtes sélectionné. Donc n'hésitez pas, fira.org pour tous les renseignements. Et maintenant, revenons au sujet du jour avec nos invités. Bonjour Céline Ametti, déléguée générale de Clubhouse France.
Bonjour.
Et bonjour Mouaouia, membre du Clubhouse Paris.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être là. Alors de 2012 à 2016, des chercheurs ont étudié l'impact économique du Clubhouse de Paris en tant que modèle innovant pour la prise en charge des troubles psychiques. Et ensemble, nous allons regarder pendant cette heure d'émission de plus près les résultats de l'évaluation qui a été réalisée dans le double but d'abord de mettre en relief justement l'impact du modèle économique Clubhouse Paris dans le parcours de vie des personnes vivant avec un trouble psychique et puis aussi dans un deuxième temps d'estimer les coûts sociaux et économiques qui pourraient être réduits ou même évités, on va le voir, grâce à ce modèle. Alors avant de rentrer dans les détails de cette évaluation, dans la synthèse de l'évaluation, on va peut-être dire un mot pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas ce presque fameux modèle du Clubhouse Paris. Ce qu'est le Clubhouse Paris, quel est son rôle, puisque je crois qu'il vient combler un manque au niveau du parcours de vie d'une personne avec des troubles psychiques. Alors qui veut se lancer, Mouaouia?
Alors le Clubhouse Paris est une structure non médicalisée. Qui est destiné à des personnes vivant ou ayant un trouble psychique et dans lequel on fait des activités on fait tout, il y a pas de prestataire extérieur, donc pour faire fonctionner le site, on fait de la gestion de mail, on fait des repas, il y a un repas tous les jours, un repas par jour, donc on prépare les repas, on met la table, tout est fait par les membres en fait, ce qu'on nous appelle des membres nous et les salariés. Rien n'est fait sans les membres, en fait. Donc, c'est le Clubhouse est organisé sur une semaine de travail. On a des horaires de 9h30 à 18h et 17h le vendredi. Mais dans cette semaine de travail, qui est calquée sur une semaine de travail, on peut venir quand on veut. On n'a pas d'obligation, c'est sur la base du volontariat. On peut venir le matin, comme l'après-midi, comme juste venir pour déjeuner, etc.
Alors, on vient quand on veut, mais on s'engage quand même un petit peu en amont sur...
Non, parce qu'en fait, on a des réunions de fonctionnement qui ont lieu le matin à 10h et à 14h. Et dans ces réunions, c'est dans ces réunions qu'on va décider qui fait quoi. On a un grand tableau, on a une salle en bas avec un grand tableau dans lequel il y a la répartition des tâches. Et c'est sur la base de volontariat qu'on s'inscrit aux tâches.
Et alors, les tâches, de quoi s'agit-il? C'est vraiment le fonctionnement interne de la structure?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fonctionnement interne de la structure. Donc tout ce qui est, il y a les repas aussi, il y a l'accueil et le standard. Le standard, c'est l'accueil, c'est on ouvre la porte aux personnes qui viennent et qui entrent et on répond au téléphone des membres ou d'autres personnes extérieures. Il y a la gestion des mails, il y a tout ce qui est en fait administratif, tout ce qui est tâche d'hygiène et tout ce qui est tâche liée au repas. En plus de ça, il y a un volet basé sur l'emploi où il y a un suivi. Chaque membre, quand ils sont confirmés au bout d'une période de un mois, on les confirme membres, ils choisissent un référent au niveau des salariés et ce salarié les accompagne dans leur démarche. Il fait un suivi, en fait, et notamment dans la démarche liée à l'emploi.
Alors, quand vous dites confirmer en tant que membre, d'abord, quel est le public? Enfin, quels sont ces membres qui viennent là prioritairement? Et puis, comment on est confirmé?
Alors, les membres qui viennent prioritairement, comme je disais au départ, ce sont des membres qui ont des troubles psychiques, mais qui sont suivis, d'une part, qui ont bien sûr qui sont majeurs et qui ont un toit. C'est à peu près les conditions principales. Il faut que s'il soit suivi par un médecin, obligatoirement.
Et c'est le médecin qui va les diriger vers cette structure?
Pas forcément. Ça peut être, il y a plusieurs canaux. Ça peut être les médecins, ça peut être les centres médico-psychologiques, les CMP. Ça peut être, ils ont vu ça par le bouche à oreille, ça peut être plusieurs canaux. Par contre, nous, ce qu'on demande dans la première étape, c'est que le futur membre nous adresse un mail. Il nous adresse un mail, nous on lui répond par mail, il y a une liste d'attente, donc suite à cette attente, on le convie à une réunion d'information dans laquelle il va découvrir le site, on va lui faire visiter, et à l'issue de la réunion d'information, on le convie à une journée découverte. Et c'est là qu'on demande à ce que le psychiatre nous appelle, on remet une lettre au futur membre qui remet à son psychiatre, et on demande à ce que le psychiatre nous appelle. Parce qu'avant, nous on appelait, et on dérangeait le psychiatre qui était en consultation. Donc on demande à ce qu'il nous appelle, on demande à ce qu'il fasse un courrier aussi. Et il nous appelle juste pour qu'il connaisse, pour qu'on lui explique le fonctionnement du club et la philosophie du club.
Alors vous, je crois que ça fait 2 ans.
Ça va faire 2 ans là que je suis membre du club.
Qu'est-ce qui vous a poussé à envoyer un mail un jour, à dire je voudrais
participer? Alors moi, c'est que j'ai participé à un groupe de parole de France Dépression, dans lequel j'ai rencontré une membre du club et elle m'a parlé du club. Donc je suis allé sur le site et ça m'a paru intéressant. Et donc après, j'ai envoyé un mail et on m'a convié à une réunion.
Céline, la structure Clubhouse France, donc Clubhouse Paris dont on parle, mais il y a aussi depuis 2017 une structure qui a ouvert à Bordeaux et une autre à Lyon, preuve que déjà, a priori, ça marche assez bien puisqu'on continue et qu'on en ouvre d'autres. C'est une structure qui est extrêmement originale, unique, singulière. Il n'y a pas d'autres structures d'accueil de ce type-là en France et d'autres structures qui font le lien, comme vous le faites vous, entre les champs médico-social, professionnel, et donc dans le parcours de vie, dans le chemin de vie d'un membre.
Exactement. Pour être encore plus précise, le Clubhouse est une méthodologie. Donc, comme le disait Moya, c'est un lieu d'entraide de jour. Mais cette méthodologie, elle a été créée en 1948 à New York par des personnes. À l'époque, c'était les patients d'un gros hôpital new-yorkais. Et la méthodologie s'est développée petit à petit par cette notion d'entraide, de liberté calquée sur un rythme professionnel. Et aujourd'hui, on retrouve des Clubhouse dans 35 pays. Et donc il y en a à peu près 350. Il y a 6 ans, on a essayé d'adapter cette méthodo à Paris. On est toujours en train de l'adapter. Et donc il y a le club à Paris qui existe depuis 6 ans avec 220 membres. Et c'est une démarche relativement originale dans le sens où on ne considère absolument pas les personnes qui nous rejoignent comme des bénéficiaires ou comme des patients ou comme des malades. Mais on considère qu'ils sont des personnes à part entière qui aspirent à une vie autonome, épanouie autant que possible. Et donc là, on va mélanger la méthodologie des Clubhouse, donc les journées de travail, et la force de l'entraide, la pair aidance, l'accompagnement, l'empowerment, notre objectif final étant un rétablissement le plus complet et durable possible.
Et il y a un positionnement qui fait que vous êtes en lien avec tous les acteurs par ailleurs qui vont interférer dans la vie du membre.
Voilà, en fait, on s'intéresse à la personne à part entière, quels que soient ses freins et quels que soient les dispositifs et les acteurs qui gravitent autour. Donc, en effet, ça va, on est en contact avec les acteurs médicaux, les psychiatres, alors qu'on n'est pas médicalisé. On est en contact avec les employeurs, que ce soit pour des personnes qui sont en arrêt maladie, pour leur employeur actuel ou pour des personnes qui veulent rejoindre une entreprise. On est en contact avec les acteurs sociaux. Parfois, il y a des assistantes sociales, les MDPH, les pôles emploi, enfin voilà, tout ce qui peut. En fait, moi, j'aime bien dire que le club, c'est un peu des facilitateurs dans le fonctionnement du dispositif, mais ça repose. Et moi, Ouya, quand tu présentais les critères pour rejoindre le club, il y en a un qui est très, 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 très important, c'est l'envie. Et donc, en fait, pour rejoindre le club, il faut avoir envie de rejoindre cette dynamique et il faut avoir envie d'être dans un collectif qui devrait permettre d'aider à mieux être à titre individuel, mais dans le collectif, on est dans une société, donc c'est vraiment toute l'inclusion qui nous intéresse.
Alors on est dans une société, mais l'idée, ça va être de réévoluer vers l'extérieur, vers une société autre. Comment se passe cette transition ? Vous, Mouaïa, vous y êtes depuis donc déjà 2 ans. Le but, c'est justement après que ça vous permette de vous avoir redonné suffisamment de force, d'espoir, d'estime de soi, de confiance, pour aller à nouveau à l'extérieur ou d'y rester encore un petit peu parce que c'est un système dans lequel on est.
C'est une passerelle en fait, mais il y a une particularité du Clubhouse, c'est qu'on est 10 membres à vie. Ça veut dire que quand on est confirmé membre, après une période d'accueil de 1 mois à peu près, on nous confirme membre. Et à partir de là, quand on ne retourne plus au club pour plusieurs raisons, hein, par exemple parce qu'on retourne au travail, etc. Et ben, d'une part, on nous envoie toujours les plannings, on envoie le planning tous les vendredis à tous les membres. Et d'autre part, quand on revient de cette période-là, on peut revenir, on n'a plus à refaire des démarches.
Et qu'est-ce qui fait, à votre sens, la force du Clubhouse Paris, qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'aller y travailler là, dans cette structure en interne, et que c'est peut-être impossible d'y aller dans une structure extérieure?
Dans les chartes, et dans la philosophie du Clubhouse, c'est qu'il y a une certaine bienveillance et un non-jugement. Et donc, ça veut dire qu'on peut venir, déjà, on rompt l'isolement, donc on voit du monde. Donc c'est assez convivial, on commence à faire des tâches de co-gestion, c'est-à-dire on fait les choses ensemble, et donc ça nous remet en confiance, et c'est bon pour notre établissement en fait. Donc c'est ce qui me pousse à venir au club. Et surtout, il n'y a pas de jugement, donc je peux essayer telle ou telle chose, je peux travailler aussi sur des projets. En ce moment, je collabore sur un projet, une mise en place d'une base de données. Donc je peux m'exercer à faire ces choses-là sans qu'on me dise c'est bien, c'est pas bien, etc. Sans qu'on me juge. Et donc ça me prépare en fait au Clubhouse, on est une passerelle qui va accompagner les personnes dans leur vie, que ce soit dans leur projet personnel, mais surtout dans la vie professionnelle. Donc on accompagne, on a des outils au Clubhouse qui permettent d'accompagner ces personnes, enfin d'accompagner pardon les membres.
Au plus près de la recherche sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Et de retour sur le plateau avec Céline Ametti et Mouaouya, membres du Clubhouse Paris. Et tous les deux membres, hein. Céline, vous êtes déléguée générale, mais membre aussi. Alors Mouaouya, vous me le disiez à l'instant, vous vous occupez notamment de la mise en place d'une base de données pour suivre les indicateurs d'activité des Clubhouse Paris. Donc il y a une véritable activité au sein du club. Mais j'imagine que vous avez un objectif personnel au-delà de cette activité qui va être de vous préparer à sortir du Clubhouse Paris pour retourner peut-être dans une structure lambda.
Pas forcément sortir du Clubhouse, mais dans l'objectif personnel effectivement que j'ai, c'est de retourner à mon emploi et en revenir de temps en temps au club en tant que bénévole. Parce que pour moi, le club est une passerelle pour se rétablir, mais c'est aussi, moi je me dis aussi que je suis bénévole au club et que j'apporte ma pierre à l'édifice. Donc mon objectif principal effectivement, c'est de retourner à mon emploi. Je me réfère à ma référente qui m'aide et qui m'épaule dans ce retour à l'emploi. Vous parliez de partenaires. Par contre, on a différents partenaires chez lesquels on intervient et qui viennent nous aider aussi à faire par exemple des ateliers au club ou dans lesquels on intervient pour faire des sensibilisations. Et j'ai des collègues membres qui font des missions ponctuelles chez des partenaires ou qui font des stages chez des partenaires. Donc,
Céline Mouaouya le disait à l'instant, on ne sort pas de toute façon véritablement du Clubhouse, hein, on y reste, on y est membre à vie, on y revient quand on veut. Ça, c'est une donnée extrêmement importante pour les membres.
C'est comme une ressourcerie à vie. C'est-à-dire que c'est un endroit où je peux aller autant que je veux, aussi longtemps que je le souhaite. Mais il ne faut pas faire le raccourci, je ne veux pas en sortir, dans le sens où le club n'est pas un cocon fermé. L'objectif, c'est vraiment un rebond, une passerelle. Et on le voit dans les 35 pays où il y a des clubs, en moyenne, les membres restent 2 ou 3 ans pour faire un vrai nouveau pas vers l'extérieur. Donc on a vraiment cette fenêtre de 2-3 ans, mais il est certain que les anciens membres, ceux qui sont les plus rétablis, les mieux insérés, sont les meilleurs alliés pour souvent allumer la petite lumière auprès de quelqu'un qui n'est pas au même stade de son rétablissement. Et du coup, d'avoir cette entraide et ce suivi, en gros, des anciens envers les nouveaux membres, c'est extrêmement précieux. C'est le cœur de la pérédance.
Est-ce que vous travaillez du coup en partenariat avec des entreprises extérieures, des organismes extérieurs, ou est-ce que le gros travail du Clubhouse, c'est vraiment sur la personne, sur elle, sur son travail intérieur, on va dire, et qu'après elle se débrouille pour retrouver du travail ou pour retourner dans son ancien travail?
Alors c'est un vrai mix des deux. Quelque chose des plus délicats dans le club, mais à la fois de mon point de vue le plus fantastique, c'est vraiment le sur-mesure. Donc, je vais vous donner trois exemples, c'est-à-dire qu'on va autant aller à l'extérieur, donc on va aller chercher des entreprises qu'on va identifier comme ouvertes sur ce sujet ou potentiellement ouvertes, on va vraiment aller les chercher, et d'un autre côté, on va les faire venir. Donc, toutes les semaines, le club va en entreprise et les entreprises viennent au club, au moins deux fois par semaine. Donc ça, c'est pour les entreprises. Mais à côté de ça, par exemple, sur les recherches métiers, c'est pas toujours facile de savoir exactement ce que vont faire, ce qu'on veut faire si on est en reconversion et qu'on rêve tel ou tel métier. Eh ben, on va essayer d'aller chercher des professionnels qui exercent ce métier pour venir le présenter aux membres qui aspirent aux mêmes fonctions. Donc, on va travailler la rencontre en permanence sur tous les secteurs possibles.
Et en attendant, ce qu'il y a de bien, c'est que les membres qui viennent ne sont plus des allocataires de l'AAH ou autres, ils deviennent véritablement des membres actifs. Est-ce qu'ils sont payés, d'ailleurs, les membres?
Non.
Alors, c'est une éternelle question.
Non, on n'est pas payé en fait, mais moi, je considère que c'est comme du bénévolat, mais ça nous apporte dans le cadre de notre rétablissement.
Ouais, ma question n'est pas anodine. Bon, je savais que vous n'étiez pas rémunéré pour ça, mais parce qu'au final, quand on parle de ce type d'expérience, les gens vont toujours nous jeter à la figure le coût. On nous dit, ça coûte cher, bah oui, mais c'est bien gentil votre idée, mais ça coûte cher. Et là, et on va peut-être rentrer par ce biais-là dans l'évaluation qui a été réalisée ces dernières années au Clubhouse Paris, le coût d'abord de la santé mentale en France, qui est de plus de 100 millions d'euros, est très largement sous-évalué. Et de toute façon, une des choses qui ressort de l'étude, c'est que le coût économique pour la société est bien moindre que s'il n'y avait pas le Clubhouse. C'est-à-dire qu'à titre individuel, c'est mieux pour le membre et c'est mieux pour la collectivité qui va aussi faire des économies grâce au Clubhouse.
Alors, c'est ce qu'on essaye de démontrer. En deux mots, à l'étranger, ils ont super bien démontré tous les impacts des Clubhouse. Il y a des chercheurs dédiés au MIT, aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment, il y a des doctorants dédiés sur l'impact des Clubhouse dans les sociétés. Et nous, ce qu'on a essayé de faire à Paris, dès qu'on a créé le club, quand on a montré les résultats étrangers, les gens, les ministères, les administrations publiques nous ont dit « c'est super, mais en France, montrez-nous que ça va marcher en France et que ce n'est pas un modèle étranger qui n'a pas de lien avec notre tissu réel ». Donc, ce que nous avons essayé de faire d'abord, c'est qu'en fait, on a mis en place, il y a trois volets à notre évaluation. Le premier volet, on a travaillé avec la CNSA et une doctorante dédiée qui s'appelle Clémence Batin, qui est psychoclinicienne. Pendant 3 ans, elle a suivi les 30 des 70 premiers membres à Paris. Pendant 3 ans, elle les a suivis sur une étude qui touche plus à ce qui est qualité de vie, réinsertion, estime de soi. Il y avait 8 indicateurs, mais qui tournent plutôt autour du relationnel et de la qualité de vie. Et en fait, elle a démontré en 3 ans, à l'issue de cette étude, que parmi les 30 personnes qu'elle avait suivies, il y avait eu des vrais impacts positifs. Nous, ça nous sert aussi à nous remettre en question. On n'est pas en train de dire tout ce qu'on fait est fantastique et monte des bisounours. On dit juste qu'il se passe quelque chose dans ce lieu qui a un impact positif sur la vie de la majorité des gens qui le fréquentent. Essayons de creuser. Donc ça nous a déjà servi à nous rassurer sur le fait que, en France, à Paris, notre petite expérimentation avait un vrai impact sur la vie des gens. Une fois qu'on a fait cette étude, on s'est dit qu'il faut absolument aller plus loin. Et c'est là qu'on a eu le soutien de la Fondation Malakoff-Médéric pour avoir une économiste de la santé qui, pendant 1 an, a planché sur l'impact économique. Donc quel est vraiment l'impact du club en termes économiques en France? Et là, la difficulté qu'on a eue, c'est qu'en fait, rapidement, elle a échangé avec des membres et elle a démontré, je vous donne un ratio tout simple, fréquenter le club, pour beaucoup, a réduit d'un tiers le taux d'hospitalisation. Il y a une étude fantastique à Baltimore, encore une fois, excusez-moi de citer les Américains, mais ils sont très bons dans la recherche sur les maladies mentales et l'insertion en santé mentale. Et en gros, ils ont démontré que les personnes qui fréquentaient les Clubhouse 2 fois par semaine réduisaient d'un tiers leur hospitalisation et leur recours à des soins médicaux. Et ceux qui fréquentaient le Clubhouse plus de 2 fois par semaine réduisaient encore d'un tiers leur appel aux soins, aux dispositifs médicaux. Et donc, les impacts pour réduire le trou de la sécurité sociale, ils sont phénoménaux. En Finlande, les clubhouse, c'est 100% public, quoi. Nous, on est encore au stade où on doit démontrer notre impact, avec une particularité, et je fais la transition avec Moya, c'est qu'une fois qu'on a réalisé que l'économiste de la santé a planché, en fait, elle est arrivée à la conclusion qu'on n'avait pas assez de données et que c'était beaucoup de déclaratifs, beaucoup d'échanges. Et dans le club, comme on fait tout ensemble, quand quelqu'un arrive, on le prend comme il est. Et donc, on ne va pas aller creuser « et t'as été hospitalisé combien de fois ?»« et qu'est-ce que t'as comme diagnostic ?»« et depuis combien de temps t'as pas travaillé ?» On va y aller tout doucement et on va plutôt se concentrer sur le présent et l'avenir et on ne va pas trop creuser le passé. Mais un des enjeux de l'évaluation, c'est qu'il faut pouvoir creuser le passé pour le mettre en parallèle de l'impact aujourd'hui et demain.
Pour valoriser voilà, l'action du
D'où le troisième volet, base de données sur lequel Moya est un acteur majeur.
Et c'était un choix que vous avez fait, vous, de par votre formation initiale, de vouloir travailler sur une base de données, ou c'est quelque chose de nouveau, ça vous a...
Ouais, ça s'est présenté à moi et j'ai trouvé ça intéressant. Effectivement, de par mon activité, je suis amené à tester des logiciels. C'est ce que je fais dans mon activité, pas principalement, mais c'est ce que je faisais. Et la base de données, ça me paraît intéressant parce que j'aime bien travailler en gestion de projet. Et donc là, c'est une gestion de projet de l'appel d'offres pour trouver le prestataire jusqu'au test sur la nouvelle base de données et jusqu'à la mise en place et la formation sur la base de données.
Et alors du coup, c'est un travail pour lequel vous allez passer le relais à quelqu'un pour pouvoir, vous, continuer une activité ailleurs, ou vous avez bien envie de mener ce projet à terme? Non, mais en tout cas...
J'ai envie de continuer sur ce projet tant que je peux, tant que je serai disponible, oui, pourquoi pas, quoi.
En tout cas, cette base de données, elle est essentielle parce qu'on le voit et dans les résultats, dans l'analyse qu'a menée Elodie Meige, on peut la citer, qui n'est pas avec nous, mais elle n'est pas sur Paris.
L'économiste de la santé, c'est à fait. Merci de la citer, je la remercie.
Il y a la réduction des hospitalisations, Céline vous en parliez à l'instant, et il y a beaucoup d'autres effets positifs qui sont apparus, une meilleure productivité des personnes, des actions. Alors, qu'est-ce que c'est l'action positive sur l'observance? Ça, c'est aussi quelque chose qui est noté dans cette analyse.
Alors, donc, je ne suis pas médecin, donc je vais peut-être vulgariser. Mais donc l'observance, c'est la capacité, c'est la manière dont la personne suit son traitement, principalement les traitements médicamenteux. Et en fait, avoir un impact positif sur l'observance, c'est une forme de prise de conscience. C'est-à-dire que la personne prend conscience de l'impact de son observance sur ses prochaines étapes de rétablissement. Et en fait, le fait de la maladie n'est pas un sujet, les médicaments ne sont pas un sujet dans le club, mais en même temps, on sait que tout le monde est concerné. Et donc, par les échanges informels, on a remarqué qu'il y avait, c'est toujours cette notion d'empowerment, c'est renforcer les capacités de la personne elle-même. Et donc, il y a une prise de conscience de « Ah bah au fait, c'est vrai que les 5 dernières fois où j'ai arrêté mon traitement, ça s'est mal fini et peut-être que là, je devrais essayer de ne pas l'arrêter ou alors de mettre en place un dispositif qui va me permettre d'éviter le pire. »
Alors, vous n'êtes pas docteur, mais vous pouvez aussi nous dire un mot du rôle d'effet compensatoire, parce que ça aussi, c'est un des effets bénéfiques qu'on a en tout cas remarqué dans l'étude.
Alors, je ne veux pas trop avancer sur les aspects médicaux parce que je ne veux pas résumer le club, je ne veux pas faire un raccourci de parcours de soins. En fait, on se bat pour démontrer que la santé mentale en France nous concerne tous. Il y a 2 millions de Français qui sont concernés. Et une des originalités du Clubhouse, dans tous les cas, notre vision de l'inclusion, c'est de parler de parcours de vie et non pas de parcours de soins. Et donc, du coup, il y a un autre chiffre qu'on a constaté, c'est qu'un tiers des membres du club accèdent à une activité professionnelle dans l'année. Ça aussi, ça fait des économies majeures pour la société. Et en gros, il y a des choses qui nous ont interpellées négativement. Par exemple, la surémulation du clubhouse fait qu'il y a des personnes qui vont peut-être moins se concentrer. Donc, il y a aussi des axes sur lesquels l'étude nous interpelle en termes d'amélioration. Mais en gros, on sait que ça aide la personne à être plus consciente de ce qu'elle est et de son rôle en tant qu'actrice. Pour être mieux.
Au plus près de la recherche sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Et encore en plateau avec Céline et Mouaouia. On parle toujours de cette évaluation du Clubhouse Paris qui démontre à quel point c'est une structure vraiment innovante et nécessaire de décloisonnement hein, des champs sanitaires, médico-social et social. J'aimerais qu'on revienne un mot sur cette approche du Clubhouse Paris, sur l'organisation, la pérédance, la co-gestion. Tout ça, c'est des termes qu'on voit apparaître, qui sont de plus en plus présents dans beaucoup d'associations, d'ailleurs du domaine du social, en tout cas pour ce que j'en connais. Mais voilà, c'est encore rare, ces notions d'entraide et de co-gestion notamment. Ça, c'est quelque chose qui permet effectivement d'adhérer pleinement et d'être motivé pour participer au Clubhouse Paris, Mouaouia.
Tout à fait, la co-gestion, en fait, c'est le travail, comme on vous a dit, rien n'est fait sans les membres, il n'y a pas de prestataire extérieur. Donc la co-gestion, c'est le fait de travailler ensemble, donc ça renforce l'estime de soi. Le travail, ça renforce aussi le travail en équipe. Donc, c'est un des fondements du Clubhouse, la co-gestion. En plus de ça, on est suivi par un référent staff, salarié, qui nous accompagne dans nos démarches, que ce soit administratives ou démarches professionnelles. Et on a un certain nombre d'outils au niveau du Clubhouse pour qu'on puisse être accompagné au retour à l'emploi. Pour trouver un emploi. Ces outils permettent un accompagnement, en fait.
Et au-delà du retour, enfin, avant, on va dire, le retour à l'emploi, il y a toutes ces notions de retrouver sa capacité d'agir, l'empowerment que Céline citait tout à l'heure. Tout ça, c'est des notions que vous avez, vous, découvert à travers le Clubhouse Paris.
Oui,
c'est là que vous êtes rendu compte de l'importance de...
Oui, je me suis rendu compte de l'importance. Et pour moi, le Clubhouse, en plus d'être une passerelle, c'est aussi un très bon complément aux soins qu'on a déjà par ailleurs au niveau médical. Pour moi, c'est thérapeutique en fait, indirectement. Ce n'est pas, on est non médicalisé, mais dans le travail de rétablissement, ça a une place prépondérante, une place très importante dans le travail de rétablissement. Ça va bien compléter les soins qu'on a. Le Clubhouse ne se substitue pas aux soins, surtout pas. Par contre, ça vient bien compléter.
Alors, à vous entendre, c'est vrai qu'on voit que le Clubhouse, il fait le lien entre ces différents domaines, on l'a vu. Ça comble un manque réel aujourd'hui et c'est la seule structure de ce type qui comble ce manque-là.
Alors, en France, il y a beaucoup de structures en silo. C'est-à-dire qu'il y a les experts de l'emploi, le milieu protégé, les ESAT, les EA, etc., chantier d'insertion. Et puis après, il y a les experts sociaux dans notre secteur. Donc, il y a les groupes d'entraide mutuelle qui rompent le lien social. Et puis après, il y a les acteurs administratifs, les MDPH, les sociaux, etc. Et en fait, le club n'est pas... en fait, on ne veut pas être une... On reste extrêmement humble, hein, parce que 220 membres à Lyon et à Bordeaux, on débute avec une cinquantaine de membres. Il y a 2 millions de Français qui ont un trouble psy, donc on... Tout ce
connu.
Qu'on veut,
connu,
ouais,
plus.
Connu, c'est qu'en fait, juste, on essaye, et c'est vrai que c'est important pour nous de considérer encore une fois la personne à part entière. Pour donner un exemple sur le décider ensemble, moi j'apprends beaucoup au Clubhouse, à titre personnel et professionnel, et donc le club décide ensemble. Alors, c'est un peu bisounours de se dire, ah bah oui, bah, tout le monde donne son avis pour tout, ça doit être un bordel monstre. Et en fait, pas du tout. C'est un peu un cadre assez strict, mais dans lequel il y a beaucoup de flexibilité. Et je vous donne un exemple. Il y a une réunion spéciale tous les vendredis, qui est la réunion où on se remet sérieusement en question au sens large. Et il y a un certain nombre de sujets à l'ordre du jour qui sont décidés précédemment, ensemble. Et en fait, on va travailler le consensus. Et on va prendre des décisions au consensus, quelles qu'elles soient. Par exemple, la seule chose rémunérée qu'on demande aux membres, c'est le coût du déjeuner. Donc, on va créer le consensus sur combien on doit participer pour le déjeuner. Et une fois que le consensus existe, on acte la décision pour 4 mois. Et donc, le collectif prend une décision et on ne la remet pas en question avant 4 mois, c'est-à-dire qu'on la teste. Et donc, c'est le genre de petite technique qui permet de se rapprocher d'une dynamique de travail en équipe. En même temps, on décide, donc on a une vraie responsabilité, et puis on teste, et puis on se remet en question.
Ça paraît, à vous écouter comme ça, on se dit, mais c'est... Ça paraît vraiment super. On se demande pourquoi, effectivement, vous n'avez pas déjà convaincu tout le monde de l'utilité. On a un retour sur investissement qui est à la fois financier, à la fois social. On voit que les personnes vont mieux. Tous les témoignages, effectivement, recueillis vous l'avez dit tout à l'heure, il peut y avoir des points à améliorer, mais globalement est extrêmement positif dans ce que ça amène à la personne. C'est vrai qu'on se dit, bon, c'est dommage que ce ne soit pas mieux valorisé. Alors par contre, vous parliez de 220 membres actifs aujourd'hui. C'est le maximum de la capacité que vous pouvez avoir à Paris. En micro, vous me disiez 150 personnes en liste d'attente. Le hic, il est là, c'est que ça reste une goutte d'eau.
Ouais. Alors, c'est ça reste une goutte d'eau et en même temps, avec beaucoup d'humilité, l'impact est tellement réel qu'on espère bien que cette goutte d'eau va faire résonance. Et en fait, le club est un peu avance grâce à une multitude de petits miracles et de rencontres. Et donc, deux personnes qui rentrent dans le club, ils comprennent immédiatement à quoi ça sert et du coup, ils nous aident à le pousser plus loin. Ce qui est très délicat, c'est que comme on est une innovation, on ne rentre pas dans les cases. Comme il n'y a pas de médecin et comme on fait confiance aux personnes, on ne les considère pas comme malades, ça bouge un peu les lignes. Et j'ai souvent entendu dire « Quoi ? Mais vous avez un club de malades mentaux ou vous faites confiance à des schizophrènes ?» Et aujourd'hui, on ne peut plus entendre ce genre de discours. Et la dynamique du club aide à ce que chacun soit en capacité de mieux être et surtout d'avoir des arguments aussi pour déstigmatiser et changer de regard. Donc oui, c'est une goutte d'eau. On se bat pour qu'il y en ait plus. Les besoins sont importants. On a tous les jours des appels de villes qui nous disent « Quand est-ce que vous faites un clubhouse dans notre ville ?» Et notre plus grande difficulté, c'est éternel. J'espère pas éternel. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est les financements.
Wawia, dans le retour vers l'emploi que vous espérez proche, vous allez être un ambassadeur du Clubhouse Paris, mais aussi pour toutes les personnes fragilisées psychiquement. Vous allez pouvoir être mieux armé pour expliquer aussi à une structure ordinaire, à une entreprise ordinaire, eh bien, comment prendre en compte les spécificités de chacun, comment peut-être être un peu plus bienveillant justement envers l'autre. Ouais, parce qu'il va y avoir
moi, depuis que je suis au club, j'ai appris la bienveillance. Enfin, je l'étais déjà, mais on renforce son non-jugement et sa bienveillance. Et je pense que ça a changé quelque chose dans ma vie. C'est ce regard qu'on peut avoir. Moi, j'ai plus le regard comme on peut avoir quand on voit des personnes qui sont bipolaires ou schizophrènes. J'ai plus ce regard-là. J'ai plus le même regard. Et c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. C'est pour aussi, dire qu'il faut changer au niveau des mentalités et qu'on est un peu en retard en France et il faut rattraper ce retard-là sur le regard sur les troubles psychiques.
Surtout que vous parliez de regard à l'instant et une des problématiques des troubles psychiques, c'est que souvent, c'est des handicaps invisibles. Oui, et c'est pour ça qu'il y a souvent du rejet dans un premier temps parce que les personnes ne se rendent pas compte, ne réalisent pas, ne sont pas sensibilisées à la maladie psychique. Et au lieu d'être justement bienveillantes, vont souvent aller dans le rejet. Ça, c'est une crainte que vous gardez pour un retour en milieu ordinaire où vous vous sentez réellement armé pour pouvoir répondre, expliquer, peut-être faire de la pédagogie et pouvoir mieux supporter.
C'est pas évident d'expliquer peut-être à son responsable. J'expliquerai à mon responsable. Après, je pense pas que je rentrerai dans le détail parce que, comme disait Céline justement, c'est qu'on est des personnes avant tout. Donc, on a certainement besoin de certains aménagements, que ce soit terme horaire ou etc. Mais à partir de là, il n'y a pas d'obligation de parce que au niveau des équipes, au niveau des, enfin des, les gens ne sont pas forcément tous sensibilisés à ça. Donc, c'est un peu délicat en fait.
Ça va être ça le maillon manquant entre le clubhouse et le milieu ordinaire. Ça va être de s'assurer qu'à côté, il y a une pédagogie qui est faite pour que ce retour à l'emploi que vous avez préparé ne soit pas vain sur le long terme.
Exactement. On essaie. En fait, comme on fait du sur-mesure, c'est en fonction de chacun. Dans le cas de Mouaouia, comme il est, comme il vise un employeur qu'il connaît déjà, nous, on respecte son choix. C'est-à-dire que s'il ne souhaite pas faire des actions de sensibilisation de fond avec l'employeur, on ne va pas y aller. C'est Mouaouia qui décide. En revanche, il arrive qu'un membre dise ou qu'une personne dise « Bah si, moi, j'aimerais bien que vous alliez voir mon équipe parce qu'ils sont dans le jugement, ils n'y comprennent rien et je suis sûre qu'on peut les faire bouger. » Donc, on va y aller, mais ça sera toujours à la volonté de la personne.
C'est ce qui est intéressant au club et c'est le message que je veux faire passer, c'est qu'au club, c'est du sur-mesure. C'est perfectible, c'est pas la recette miracle, mais c'est du sur-mesure. Donc à partir de là, avec notre salarié référent, on va trouver les solutions qui vont nous accompagner soit à un emploi, soit à une formation, enfin dans différents cas, ou soit pour mon cas, un retour à l'emploi. Et il y a un certain nombre d'outils qui nous permettent de revenir à l'emploi et surtout il y a une relation tripartite avec l'employeur qui peut se mettre en place, une sorte de relation dans laquelle le staff est un peu va rassurer l'employeur parce qu'il connaît les deux langages en fait, il va rassurer l'employeur et va accompagner le membre.
Alors c'est dommage parce que vous avez super bien vendu le truc, mais il y a 150 personnes en liste d'attente, on manque de Clubhouse, ouais. Donc appel aux décideurs pour faire naître ce type de structure dans d'autres villes pour pouvoir accueillir plus de monde, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, les capacités sont déjà bien, bien entamées. En tout cas, pour avoir plus de détails sur l'impact économique du Clubhouse Paris et regarder les résultats de l'évaluation qui a été menée par Elodie Meij, c'est en ligne sur le site de clubhousefrance.org, avec tout un tas d'informations d'ailleurs sur le Clubhouse, un site assez complet. Donc je vous invite à aller retrouver les détails de l'étude pour en savoir plus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Donc, on vous souhaite quoi ? Un recueil de données et puis qui marche bien, de valoriser cette action et d'ouvrir d'autres clubhouses ailleurs et de gagner en capacité à Paris peut-être ?
Ah, ce serait super. On rêve d'un deuxième clubhouse à Paris. Voilà, il n'y a qu'à Foucon et trouver les financements. J'en profite pour remercier la FIRA de nous avoir invités aujourd'hui. Ça fait partie des choses importantes pour nous, c'est d'en parler. Voilà. Pour exister.
Et on continuera d'en parler sur Vivre FM. Et puisqu'on cite la FIRA, je rappelle FIRA.org pour la liste des appels à projets, pour toutes les recherches appliquées qui concernent le handicap et qui améliorent la vie quotidienne des personnes handicapées. FIRA.org. Merci à tous les deux.
Merci à vous.